La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Ma mission, vous montrer qu'il existe autour de nous des hommes et des femmes de talent qui ne demandent qu'à inventer la société de demain. Vous voulez vous rassurer votre propriétaire et réussir à louer facilement un logement? Un cœur à imaginer une solution. Elisabeth Assayag nous dira comment. Comment protéger nos enfants des écrans, les aider à les utiliser, à gérer leur consommation. On vous attend 3921 et Twitter. Vous verrez que des innovations viennent à la rescousse des parents. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy. Ici, les bonnes idées ont toute leur place. Ici, on vous aide à faire connaître votre projet. On essaie d'être utile et de révéler aussi des talents pour nous aider à le faire. À mes côtés chaque jour, Elisabeth Assayag est là. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Mais aussi un duo d'experts. Notre coach aujourd'hui, c'est Éric Léandri, fondateur de Quant, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et une investisseur, c'est Laurence Meignery qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Présidente et cofondatrice de Citizen Capital. Face à nous, il y a Louis de la Barthe. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous avez 27 ans et vous avez créé Saveur. Alors Saveur, ça s'écrit S-A-V-R à l'anglaise. Saveur, c'est une appli de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais la vôtre s'adresse aux professionnels de la restauration. Dites-nous tout, vous avez 1 minute 30.
Merci beaucoup Raphaël. Avant de commencer, il y a deux chiffres que je voudrais vous énoncer. D'abord, c'est les 2,7 milliards de repas qui sont gaspillés chaque année par les restaurateurs. Et paradoxalement, dans ce même pays, c'est une personne sur cinq qui ne mange pas à sa faim. On s'est donc posé la question de savoir pourquoi est-ce que les restaurateurs ne donnaient pas davantage leurs excédents alimentaires. On est allé les voir, on leur a posé la question. Ils nous ont remonté trois points bloquants. D'abord, le manque d'informations. Ils ne savent pas à qui donner. Ensuite, le manque de réactivité des partenaires associatifs. Et enfin, le risque sanitaire. On a donc décidé de créer Saveur, qui est la première solution logistique et technologique de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui permet aux restaurateurs de faire don de ses excédents en quelques clics et en toute sécurité. Très concrètement, c'est une application que le restaurateur ouvre à la fin de la journée sur laquelle il va renseigner les produits qu'il souhaite donner. Nous, en 15 minutes, on envoie un chauffeur qui vient collecter la nourriture et qui va la redistribuer aux associations du quartier qui seront capables de la redistribuer aux gens de la rue. Voilà.
Ça, c'est la manière dont ça marche. Le projet, il est né quand ?
Le projet est né il y a 6 mois, à la suite d'un voyage à San Francisco. On a vu une entreprise qui faisait ça et on s'est dit que le problème était similaire en France. C'est pour ça qu'on a voulu le reproduire à Paris.
Voilà pour le pitch.
Oui.
On va passer aux questions, celles d'Éric et de Laurence qui vous ont écouté. Première remarque, premières interrogations peut-être, Éric ?
Alors écoute, je viens de t'écouter et je viens de lire ce qui était sur ma petite fiche. J'ai jamais vu quelqu'un détailler aussi parfaitement son plan. Alors maintenant, juste avec un peu plus d'amour et d'envie, à part le fait que tu es parfaitement clair sur ton business plan, pourquoi tu le fais ?
On le fait parce qu'on, pour trois raisons. D'abord, on a envie de donner un sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Le projet est assez challengeant d'un point de vue intellectuel. Et à la fois, on est convaincu qu'on peut faire du business en ayant un impact sur la société.
Laurence ? D'accord.
Tel que tu as décrit le projet, c'est le type de projet que nous, on adore, parce qu'il cherche à transformer quelque chose. Ton premier drive, c'est de transformer la société et tu crées une boîte pour le faire. Donc ça, on aime beaucoup. La question que je me pose, moi, beaucoup, c'est comment vous allez éviter d'être logisticien. C'est-à-dire, le but n'est pas, j'imagine, d'avoir toutes sortes de flottes à gérer. C'est un sujet assez complexe. Comment tu comptes gérer la montée en puissance de ton business avec évidemment beaucoup de commerce, j'imagine, et la capacité à desservir toutes sortes d'associations autour.
Oui, bien sûr.
Oui.
C'est effectivement un sujet assez crucial. On ne prétend pas être expert de la logistique, ce n'est pas notre métier. C'est pour ça qu'on l'a laissé à des partenaires qui, eux, sont en charge de transporter la nourriture du restaurateur à l'association. Voilà, ce sont des partenaires certifiés, donc on leur fait entière confiance.
Vous, avec vos cofondateurs, c'est vraiment l'aspect social qui vous intéresse. C'est vraiment cette mise en relation, être un facilitateur.
Exactement. En fait, on cherche un double impact et un impact écologique en luttant contre le gaspillage alimentaire, mais également un impact social en redistribuant les repas aux gens de la rue.
La suite, Louis, c'est quoi ? Là, tout de suite, l'appli, elle existe, elle fonctionne, ça y est, les premiers clients sont là ?
Oui, l'appli existe, les POC ont été signés là récemment. Le gros challenge pour nous, c'est de... En fait, on a vite réalisé que c'était beaucoup plus facile pour le restaurateur de jeter que de donner. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre le don alimentaire aussi facile que la commande d'un VTC. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire sur l'application, sur l'ergonomie, sur la facilité d'utilisation de l'application. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Et puis, continuer à monter en puissance et d'un point de vue commercial et simultanément d'un point de vue associatif. Voilà, en ouvrant de plus en plus de partenariats.
Comment tu trouves toutes les associations du quartier et comment ensuite tu te fais connaître auprès des restaurateurs aujourd'hui?
Alors, on a une personne chez nous qui est en charge de signer des partenariats avec les associations. On travaille aujourd'hui avec les Restos du Cœur, avec la Chorba, avec différentes associations parisiennes. Et c'est moi-même qui suis en charge de la partie commerciale pour aller démarcher les groupes de restaurants qui cherchent à lutter contre le gaspillage.
Restaurateurs qui ont un intérêt financier aussi.
Qui ont un intérêt financier, absolument, puisque le don alimentaire, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'est basé notre modèle de revenu, le don alimentaire permet la réduction fiscale. En faisant un don alimentaire, le restaurateur reçoit une réduction fiscale de 60% de la valeur du don. Et nous, on se rémunère en prenant une commission sur cette réduction fiscale.
Elisabeth,
c'est concurrentiel, votre entreprise? Il en existe d'autres?
Il existe un concurrent à Paris qui est beaucoup moins tech, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment rendre l'usage très simple avec un produit, une application qui soit très simple d'utilisation. Aujourd'hui, notre concurrent travaille sur un répondeur téléphonique.
Seulement à Paris, vous voulez être partout en France?
Oui, on a l'ambition d'être partout en France et puis éventuellement dans les grandes capitales européennes à terme, quoi.
Donc, développement déjà en tête à l'international.
Ouais.
Laurence?
Non, le projet me semble très...
Vous êtes convaincue?
Ouais. Oui, je suis assez convaincue.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à son projet? De l'argent, peut-être, effectivement, pour se développer, je suppose, mais...
Pourquoi pas?
La difficulté, c'est qu'il y a, trois sujets. Il y a les clients à les conquérir, il y a les associations desquelles il faut se faire connaître. Et il faut une capacité d'absorption de l'association. J'imagine qu'il faut des associations assez grosses. Mmh. Et il y a le sujet de la logistique et de la flotte pour conduire de l'un à l'autre. Votre différence par rapport à Too Good To Go, par exemple, c'est ça. C'est que vous allez directement dans les associations.
Ouais, nous,
au lieu de passer directement par les individus qui viennent chercher.
Togo, c'est à destination des particuliers.
Absolument.
Essentiellement.
Oui, oui. On considère qu'on n'adresse pas forcément le même besoin. Nous, nos clients ont vraiment l'envie d'avoir un impact social. Et c'est ce qu'on leur permet de faire en travaillant avec nous. L'avantage qu'on a peut-être par rapport à Togo, c'est qu'on garantit aux restaurateurs qu'on récupère 100% des excédents, ce qui n'est pas le cas sur Togo. Parce que si le produit n'est pas racheté, il est perdu.
J'ai juste une question, et cette fois elle sera financière, après ça m'intéressera la tech, parce que tu disais que tu avais des problèmes sur ton application. J'aimerais bien deux mots sur tes problèmes et puis peut-être on peut aider. Mais financièrement, tu te fais payer après, quand ils ont eu leurs 60%, donc ça prend combien de temps?
Nous on est payé à 30 jours
D'accord.
à la fin du mois. Et en fait, contre le paiement, le restaurateur reçoit un récépissé qui prouve qu'il a effectivement donné. Et à la fin de l'année, il va pouvoir bénéficier de ces réductions fiscales.
Donc manifestement, nos experts sont convaincus par votre projet. Vous reviendrez nous en parler, vous nous donnez des nouvelles.
Avec grand plaisir.
Ici, dans La France Bouge sur Europe 1. Merci Louis.
Merci de m'avoir reçu.
Europe 1.
On reste ensemble et si vous êtes un ami des animaux, ce qui suit est pour vous, car désormais, un réseau social gratuit existe. Il s'appelle Bibou.
Europe 1. Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Vous souhaitez peut-être louer un appartement. Elisabeth, il existe une solution. Elle s'appelle Uncle. Uncle qui propose d'être le garant.
Et oui, savez-vous de quoi on a besoin pour louer un appartement aujourd'hui?
D'argent.
Oui,
c'est une bonne réponse. Mais parfois d'avoir quelqu'un derrière nous.
Il faut avoir une situation professionnelle stable, hein, de préférence un CDI. Gagner l'équivalent de 3 fois le loyer et disposer d'un garant solide, prêt à payer en cas de problème pour régler le loyer, ce sont des critères qui ne sont pas toujours faciles à réunir, surtout qu'en cas de loyer impayé ou de surendettement, un locataire s'expose à une expulsion locative. Bonjour Mathieu Luneau.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Uncle, U-N-K-L-E. Votre idée, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre locataire et propriétaire en devenant le garant?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Comment ça marche?
On a deux très bonnes nouvelles du coup pour les auditeurs d'Europe 1. La première pour les locataires, c'est qu'on peut devenir garant de tous les locataires que vous avez décrits. Tous ceux qui n'ont pas de CDI, tous ceux qui n'ont pas de garant solide, tous ceux qui ne gagnent pas au moins 3 fois le loyer ou qui n'ont pas d'historique bancaire. Donc on va les aider à louer plus facilement un appart. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est côté propriétaire. Du coup, on sécurise totalement le loyer des propriétaires sur toute la durée du bail et sur tous les renouvellements.
Mais comment faites-vous? Comment se fait-il qu'on n'y a pas pensé avant? Vous faites comment?
Bah écoutez, on est en partenariat avec un assureur. Donc c'est en effet dommage qu'on n'y ait pas pensé avant. Mais moi-même, j'ai été confronté à la problématique parce que je suis ancien avocat, donc indépendant. J'avais pas de CDI et c'était hyper compliqué pour moi d'avoir une solution facile d'accès.
Pourtant,
pour
vous
louer.
Gagnez bien votre vie, je crois.
Exactement.
Et ouais. C'était compliqué de
tout
trouver.
Et c'était compliqué. Donc on a mis en place une solution qui permet à tout locataire de trouver un garant en moins de 3 minutes sur Internet.
Alors comment on s'y prend ? On se connecte sur Uncle.fr ?
On se connecte sur Uncle.fr. Il y a un tout petit process à remplir. Ça prend 3 minutes. Et derrière, on a une réponse immédiate et un certificat qui peut être émis en moins de 2 heures. Donc une garantie qui peut être émise en moins d'une journée pour sécuriser à la fois locataire et propriétaire.
Pour sécuriser justement le propriétaire, je crois que vous avez mis au point un système de notation pour garantir la fiabilité du locataire.
Oui, tout à fait.
Vous voulez noter ?
Oui. Alors, la notation, on le prend, c'est un système de scoring. C'est comme de l'analyse crédit, en fait. C'est pour nous, en interne, pour savoir si telle ou telle personne peut être éligible à notre garantie. Donc, nous, on peut se porter garant des locataires qui ont un taux d'effort, mais c'est exactement la même chose qu'un risque de crédit.
Donc, vous en refusez ?
Comme pour une banque.
Donc, exactement. Donc, on en refuse, malheureusement, parce qu'on est lié aux conditions de notre assureur qui nous impose...
De votre partenaire.
Oui, exactement, qui nous apporte certaines conditions. Après, il faut savoir qu'on est très large en termes des conditions. Donc c'est possible de garantir pas mal de locataires.
Eric ?
Non mais moi je trouve l'idée très bonne, en plus ça m'est arrivé aussi, mais moi c'était un autre problème, c'est parce que j'étais corse, donc ils ne voulaient pas me le louer à moi, donc ça va être compliqué dans cette histoire-là. Ce qui m'intéresse c'est comment vous allez vous faire connaître. Je trouve forcément l'idée bonne, ça va régler les problèmes de tous les gens qui ne sont pas avec des CDI, qui ont des emplois personnels. Comment vous vous faites connaître aujourd'hui, maintenant que vous n'êtes plus avocat ?
Ouais.
Je viens de comprendre que vous avez décidé d'abandonner avocat pour être entrepreneur.
Exactement,
génial.
Comme pas mal d'avocats d'ailleurs, malheureusement.
Allez-y.
Peut être les deux parfois.
Ouais, exactement. Ouais. On se fait connaître par 3 canaux différents. Le premier, c'est le digital, ce qui marche, donc la pub sur Internet. Le deuxième, c'est les agences immobilières et les professionnels de l'immobilier par lesquels on va passer et qui vont être en fait un prescripteur de notre solution. Et le dernier canal, c'est les partenariats. Donc à la fois des partenariats avec des boîtes qui vont pouvoir le proposer à leurs salariés pour faciliter leur accès à la location, à la fois avec des plateformes qui proposent des locations immobilières et à la fois des banques en ligne. Enfin voilà, pas mal d'acteurs qu'il faut du coup viser et travailler successivement.
Alors, bonne nouvelle pour Uncle, vous avez levé récemment 1 million d'euros.
Tout à fait.
Ça a été difficile de les lever,
non,
de faire le tour de table.
Ça a été plutôt facile et j'en profite pour remercier nos investisseurs qui nous font confiance. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel aux prochains investisseurs. On sera sûrement en train de rechercher de l'argent bientôt. Donc,
pour faire quoi justement cet argent à venir ? Pour développer encore le modèle ?
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui reste à aller chercher ?
Malheureusement, c'est un peu comme ça que les startups sont bâties. On consomme du cash assez rapidement.
C'est pas malheureux, hein. Il faut juste l'accélérer.
Exactement, accélérer. Donc on est déjà présent dans toute la France. Le but, c'est de mettre en place des nouveaux produits et derrière d'aller chercher potentiellement de l'international. Alors, ce ne sera pas le cas avec la prochaine levée, mais voilà, on avance vite en tout cas.
Et vous êtes hébergé notamment à la Station F.
Exactement.
Et vous faites partie du top 30 des startups qui représentent les plus gros succès du campus
de
depuis
F, ouais.
La création. Ouais. Vous l'expliquez comment ?
Je l'explique pas trop, mais on est ravis en tout cas d'en faire partie. On a un super accompagnement de Station F qui, j'en profite, qui est pas
mal. 10 salariés là, chez vous ?
Ouais, tout à fait.
Salariés.
Et petit mot de remerciement pour Station F. Qui est pas mal décrié, mais je pense que c'est important que tous les entrepreneurs fassent corps derrière l'institution que représente Station F et la marque qu'elle a envie d'instaurer, parce que c'est justement en créant des géants comme ça qu'on va pouvoir se mettre à peu près au même niveau que les États-Unis et développer des belles solutions qui vont aider les entrepreneurs à grossir.
Et vous, ça vous a effectivement aidé. Merci beaucoup d'être
Merci
venu
beaucoup,
nous parler
Raphaël.
D'Uncle. C'est
Merci,
la
Elisabeth.
Solution aujourd'hui. On reste ensemble, bien sûr.
Europe 1.
Et dans un instant, on vous attend, vous qui êtes derrière votre poste en ce moment. Venez nous dire comment vous faites pour que vos enfants lâchent leurs écrans avec peut-être des trucs maison pour leur apprendre à gérer. Venez les partager, 3921 et Twitter. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, on vous attend pour nous dire comment vous faites pour gérer la consommation d'écran de vos enfants, téléphone portable, ordinateur, tablette, nous sommes nous-mêmes adultes, hyper connectés, pas simple du coup de leur expliquer qu'il faut s'en servir avec modération. Alors, certains tentent des expériences, c'est votre cas, Nathalie Moulin, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association 10 jours pour voir autrement. Avec nous dans ce studio, Elisabeth Assayag qui va nous éclairer. Et notre coach aujourd'hui, c'est Eric Léandre. Il connaît ça par cœur, hein, évidemment, les connexions, puisque c'est le fondateur de Quant. Vous êtes basée à Chatou et vous êtes enseignante. Et je crois qu'en 2015, tout démarre avec la remise d'un prix littéraire. Et là, les enfants vous bluffent.
Oui, complètement. En fait, lors du prix littéraire de la médiathèque, en fait, les enfants ont plébiscité le livre qui est là, 10 jours sans écran, de Sophie Rigal-Goulard. Et alors là, je suis scotchée, je me dis, mais si des enfants décident de choisir un livre qui parle d'une détox numérique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire.
Donc, le livre prône l'arrêt temporaire des écrans, en tout cas, et vous dites, il y a peut-être quelque chose à inventer. Donc, vous vous tournez vers l'école ?
En fait, c'est ça. Je vais voir la directrice de l'école de mes enfants, parce que c'est juste une idée. Et je lui propose de vivre justement l'histoire de ce livre, qui est de couper avec l'équipe enseignante, de couper les écrans pendant 10 jours.
Comment on fait pour couper les écrans pendant 10 jours ? Ça se prépare ?
Alors, ça se prépare, oui, en amont, pour se rendre compte de sa propre consommation. Mais ensuite, une fois qu'on est dans ces 10 jours-là, on tente l'aventure, on expérimente ces 10 jours, et on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement facile, parce qu'on a des activités qui sont proposées. Alors justement, c'est l'objet de ce livre et c'est l'objet de notre association. On propose des activités gratuites pendant les 10 jours qui permettent aux enfants, qui aident les enfants justement à faire autre chose.
Ils décrochent parce qu'ils ont quelque chose à faire à la place. C'est une autre activité, quelque chose de plus ludique, quelque chose qu'ils font ensemble.
Alors, c'est des activités qu'ils peuvent faire avec leurs parents. Il y a beaucoup d'activités qui se passent parents-enfants, et ça, c'est essentiel parce qu'on recrée en fait ce lien que les écrans peuvent abîmer.
Oui, et puis ça empêche aussi les parents pendant ce temps de regarder leur téléphone portable. C'est un défi, ils sont challengés, c'est ça aussi qui fonctionne auprès des enfants.
Ah oui, ils adorent relever le défi. Alors au début, c'est difficile quand on leur dit on va se passer d'écran pendant 10 jours. Pour eux, ils se disent mais comment est-ce qu'on va y arriver ? Ils y arrivent très bien. Et au final, les témoignages qu'on a à la fin, c'est les parents qui nous disent que pour eux, ça a été plus difficile.
Ça a très bien marché dans cette école. Hein. Par la suite, vous êtes allé voir la mairie. Vous vous êtes dit, si ça marche dans une école, pourquoi pas dans d'autres ? Finalement, ça a fait boule de neige.
Tout à fait, tout à fait. Ça a fait boule de neige parce que là, notre dernière édition en mai 2019, on a réussi à faire le défi dans toutes les écoles, à proposer le défi dans toutes les écoles de Chatou et dans 2 collèges.
Il faut dire que si on regarde justement les écrans, les chiffres sont plutôt édifiants, hein, Elisabeth.
Oui, hein, un sondage Ipsos avait révélé que les 13-19 ans passent plus de 15 heures par semaine sur Internet, hors réseaux sociaux, hein, 15 heures par semaine. 84% des 13-19 ans possèdent un smartphone, et en cas de surexposition, des études montrent très clairement un retard de développement chez les plus petits. D'ailleurs, les professionnels de la petite enfance le remarquent déjà dans l'observation où ils sont avec eux toute la journée. En 10 ans, les petits ont plus de difficultés dans leur capacité fine, notamment tiens, par exemple dans l'empilement d'une tour. C'est plus compliqué parce qu'ils passent du temps sur les écrans à la maison.
Que dit notre coach, Éric Léandre ?
Alors, je rappelle que dans la Silicon Valley, hein, donc le temple de la tech, les 3/4 des CEO des très grandes boîtes mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a strictement aucun écran.
L'école Waldorf, notamment.
Exactement. Donc, je pense que le ramener chez nous, ça sera une très bonne idée. J'y crois beaucoup sur le fait que ça va être chez les parents que ça va être le plus dur.
Oui.
Donc, moi, je crois que je vais essayer ça. Ma femme ne va pas y croire. Là, je viens de le dire, mais j'espère qu'elle n'écoutait pas.
Nous, pour être tout à fait honnête, on
vous invite à participer au 10 jours l'année prochaine.
Il faut.
Vous parliez justement de l'école Waldorf. On en dit un mot peut-être, Elisabeth ?
Mais oui, ça se passe en Californie, cette école Waldorf qui a banni les écrans de tous ses enseignements. Voit des demandes d'inscription de plus en plus importantes. Là-bas, la pédagogie, elle est axée seulement sur la relation humaine. Il y a aujourd'hui 450 élèves, de la maternelle à la terminale, et à la place des applications et des algorithmes, eh bien eux, ils étudient et apprennent avec des crayons et du papier.
Ce qui permet de faire des applications et des algorithmes.
Oui.
En plus, c'est bien de le préciser.
Nathalie Moulin, vous avez développé du coup une plateforme Internet, alors ça c'est l'ironie de l'histoire, j'ai envie de dire, pour donner les outils aux professeurs et reproduire le défi pour que ça puisse justement essaimer.
Ben c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est-à-dire que la plateforme est en cours de réalisation. On souhaite, en fait, on a vu que le retour des parents et le retour des enfants était vraiment là et qu'il fallait qu'on continue. En fait, on a envie de continuer en fait parce que c'est un combat extrêmement important. Donc oui, on va effectivement
mettre en place cette plateforme. Vous en êtes où ? Elle va démarrer ? Elle est prévue pour quand ?
Elle est prévue pour fin novembre normalement. On a des collectivités territoriales qui nous contactent, que ça soit le département, la région, les maires des autres communes, qui nous disent nous aussi on a envie de monter ce projet, aidez-nous.
Et il y a d'autres régions qui s'y sont mises également avec le pendant de ce que vous faites, vous, du côté de Chatou.
Oui, je pense que plus on sera nombreux à faire prendre conscience les familles et les enfants sur ces utilisations des écrans, plus on sera nombreux, plus on y gagnera.
Et alors, vous voulez proposer en février 2020, moi ça m'a intéressé, les assises de l'attention, parce que c'est vraiment le problème central, l'attention des enfants.
Tout à fait. En fait, l'association des 10 jours fait partie d'un collectif d'associations qui cherche justement à trouver des solutions ensemble, parce que c'est qu'ensemble qu'on y arrivera, et propose en février prochain les assises de l'attention.
Elisabeth, si on abuse des écrans, ça modifie le cerveau des enfants.
Des études le montrent. Hein. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par les recherches des instituts nationaux américains de la santé. C'est très sérieux, menée auprès de plus de 4500 enfants âgés de 9 et 10 ans. Et il le montre qu'un cerveau d'enfant qui passe plus de 7 heures par jour devant un écran, eh bien, son cerveau ne ressemble pas à un autre, enfin aux autres cerveaux qui passent moins de temps par jour. Il y aurait un déficit de langage, des capacités intellectuelles à partir du moment où un enfant passe plus même de 2 heures par jour devant un smartphone, une tablette ou même la télévision.
Eh oui. Eric, un commentaire, je vous vois réagir.
J'en ai un, moi, franchement j'y crois beaucoup, et quand on entend ça, on ne peut qu'avoir envie en tant que parent ou en tant que spécialiste de ce type de problème de vouloir aider. Le ministère, il est au courant? Ils ont déjà vu? Vous êtes remonté jusqu'au ministre?
Pas encore, non. Bon, pas encore jusqu'au ministre. Mais...
on va essayer de voir tout à l'heure à l'Élysée ce qu'on peut faire pour pousser ça. Je vais partir avec une plaquette ou quelque chose.
Avec
plaisir. Pas possible dans cette logique où on doit aider les enfants dès leur plus jeune âge. Il faut les protéger maintenant.
Oui, parce que surtout que ça peut paraître culpabilisant, mais ce n'est pas le
cas. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'il faut proposer aux parents quelque chose en échange. On ne peut pas juste leur donner des chiffres en leur disant « débrouillez-vous ». Avec vos enfants. Non, il faut proposer des actions, vraiment.
Ça, c'est une méthode. Comment réagissent les parents? On a vu que les enfants adhéraient complètement. C'est même eux qui ont initié le projet. Les parents, ils arrivent à s'y mettre facilement? Ils sont convaincus une fois qu'ils ont passé le cap des 10 jours?
Les parents, en fait, ce sont leurs enfants qui leur rappellent pendant les 10 jours en leur disant « Pourquoi tu as ton téléphone à table ?» alors qu'on nous a expliqué qu'il fallait qu'on passe du temps ensemble. Et c'est les enfants qui font prendre conscience aux parents. Il y a une famille qui a témoigné, qui nous a dit « Mais nous, on y croyait, on ne consomme pas trop d'écran. » Et donc, on ne voyait pas trop l'intérêt de participer à ces 10 jours. Et en fait, on a été bluffés par nos enfants qui nous ont fait des réflexions sur notre propre consommation d'écran. Donc là, je pense que c'est gagné.
On reste ensemble et on parle des écrans aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1. Aider les enfants à lever le nez de ces écrans, ça passe aussi par le contrôle. C'est pour ça que Parents par âge est né. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Si on laisse une tablette, un jeu vidéo en libre service à notre enfant, va-t-il être tenté d'y passer des heures? Eh bien, la réponse est oui, mais c'est aussi à nous, parents, forcément, d'avoir les bons réflexes. Bonjour Yann Maréchal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé Parents dans les parages. C'est un portail de contrôle parental. Racontez-moi à quel moment vous est venue l'idée et comment elle est née.
Alors effectivement, Parents dans les parages, c'est un portail de contrôle parental. Moi, il se trouve que j'ai trois filles. Donc, ils sont maintenant un peu plus grandes, 23, 21 et 19. Donc, elles sont un peu sorties de l'adolescence et de l'enfance. Et donc, ce projet, je l'ai monté parce que vers 2010-2011, j'ai cherché une solution pour mes enfants, une solution pour pouvoir limiter. Bon, c'était l'ordinateur à l'époque, pouvoir limiter l'ordinateur. Et surtout, une solution que je puisse piloter à distance. C'est-à-dire
qu'il n'y avait rien.
Il y avait des choses, mais elles n'étaient pas pilotables à distance. Et donc, travaillant dans l'informatique avec mon associé, on a commencé à s'intéresser au problème. On a lancé une formule gratuite pour que les gens puissent contrôler l'ordinateur à distance. Et petit à petit, le concept est né. Et en 2012, on a créé la société.
Donc, il y a un premier prototype qui sort en 2012, effectivement, quand la société est créée. Et vous continuez à travailler sur ce prototype pour essayer de l'améliorer. Au fait, 3 ans de recherche et développement, c'est ça?
Oui, alors on a commencé à commercialiser, et puis donc c'est toujours par amélioration un produit informatique. Donc on a quelque chose qui se vend, on a étendu aux smartphones, aux tablettes, et on a surtout fait beaucoup de R&D concernant le filtrage Internet. Parce qu'on s'est intéressé finalement à avoir des filtrages Internet qui soient très précis, mais qui ne brident pas les enfants dans les autres recherches. Et donc, on a développé beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle pour, à partir des textes des sites et également des images, pour avoir une classification fine pour justement empêcher les contenus inadaptés.
Qu'est-ce que fait Parents dans les parages? Ça filtre justement les sites, ça peut sélectionner le contenu?
Alors, Parents dans les parages, ça fait trois choses principales. D'abord, c'est un outil pour les parents. Ça les aide à avoir une action de parentalité dans le domaine du numérique, ce qui est, hein, on en a parlé, pas du tout facile. Ça fait trois choses. Ça gère le temps d'utilisation sur les différents écrans. On peut également grouper sur plusieurs appareils le temps maximum.
Qu'est-ce qui se passe quand le temps est
Alors, quand le temps s'arrête terminé, sur un ordinateur, la session se ferme. Et sur un téléphone, on garde au choix du parent quelques applis qu'on appelle essentielles. Par exemple, le réveil, la calculatrice, le téléphone, si besoin. Donc, la gestion du temps, le filtrage Internet, on en a déjà parlé. Mmh. Et aussi la gestion des applications. C'est-à-dire, on peut considérer qu'un parent, pour un enfant jeune, il peut choisir les applications que son enfant va utiliser sur sa tablette, par exemple.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une autre solution pour le contrôle parental.
Oui, ça s'appelle Family Box. C'est un petit boîtier qui se branche sur la box de la maison et en même temps, ce boîtier fait office de contrôle parental. Concrètement, il filtre à la fois l'accès aux millions de sites web qui sont répertoriés comme dangereux. Ils sont quotidiennement remis à jour et ils tracent les sites que vos enfants consultent. Donc, c'est une box qui permet de prendre le contrôle des connexions web de la famille, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, et elle crée son propre réseau, son propre environnement Wi-Fi parfaitement sécurisé.
Eric ?
Non. Je travaille un peu dans ce domaine parce qu'on a lancé Quant Junior, donc on a fait un moteur de recherche sécurisé pour les enfants. C'est très compliqué. J'ai entendu parler d'intelligence artificielle. J'imagine aussi qu'il y a les gens qui aident sur le réseau, non ? Les parents, les différentes personnes qui choisissent.
Non,
ou qui
on ne fait pas de collaboratif. D'accord. En fait, c'est notre algorithme qui sélectionne tous les sites qui sont utilisés par notre population et ils sont en permanence réanalysés.
Testé,
et classifiés.
Ouais.
Tout
d'accord.
À fait.
Et donc, c'est quelque chose de complexe, mais c'est quelque chose qui peut se cumuler. Donc, ça peut être la Family Box, plus ce logiciel, plus le nôtre, plus des produits pour la communication chez les enfants.
On met des pare-feu.
Exactement. Ou alors, on fait un peu plus simple, on va le gérer avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on va être avec l'enfant. On est avec l'enfant aussi. Parce que donner à son enfant ce type d'outil avec tous ses pare-feux et croire que ça va bien, c'est retomber dans la discussion
Alors,
de tout
si
à l'heure.
Si je peux me permettre, c'est un complément en fait. Hein.
Mais c'est vraiment
un complément. C'est-à-dire que d'ailleurs, la plupart du temps, nous, ce qu'on conseille, c'est mettez le contrôle parental, ne filtrez rien, regardez combien de temps passe votre enfant sur l'appareil. À partir de là, si l'utilisation est raisonnée, raisonnable, il n'y a pas de raison d'intervenir.
C'est quoi raisonner, raisonnable ?
Raisonner, raisonnable, c'est-à-dire effectivement que ça n'empiète pas, ça dépend des enfants, ça dépend des âges, mais que ça n'empiète pas sur les activités essentielles de l'enfant, c'est-à-dire le sport, la culture, le jeu, toutes ces choses qui font qu'un enfant va se développer en fait.
Vous fonctionnez par abonnement aujourd'hui. Que vous disent les utilisateurs ? Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce qu'on vous dit, depuis qu'on a installé le contrôle parental, effectivement, il y a une prise de conscience chez mon enfant ?
Oui, on a des retours, puisque par exemple, une des principales utilisations, c'est d'empêcher le smartphone, ça paraît bête, la nuit, puisqu'il y a beaucoup d'ados qui se connectent la nuit sur les réseaux sociaux. Donc les parents voient du changement. Après, je suis d'accord, l'outil ne fait pas tout. Mais c'est souvent un outil qui aide à prendre conscience les parents et qui les aide à avoir un soutien, un appui. Et du coup, ils discutent du sujet avec leurs enfants.
En vrai, je voulais juste finir ma phrase sur ce point. Comment tu te fais connaître, parce qu'il faut ces outils aussi. C'est pour ça, c'était pas il ne les faut pas, c'est il les faut aussi. Comment tu te fais connaître ?
Alors nous, on a
Vous avez signé des contrats,
oui,
déjà.
Oui, on a deux types de ventes. On a des ventes en direct, hein, donc on se fait connaître classiquement par du web marketing, de la recherche Google, etc. Et puis, on a aussi très tôt commencé à s'intéresser aux opérateurs, parce que pour nous, c'est un vecteur essentiel de distribution. Donc, on a signé dans le passé un partenariat avec Virgin Mobile, qui maintenant a disparu. Et maintenant, on est partenaire exclusif de Bouygues Télécom pour le contrôle parental premium. Donc, ils le proposent à leurs abonnés. Et donc, ça permet d'étendre un peu l'audience. Mais cette audience doit encore être étendue.
On reste ensemble et on continue à parler du contrôle des écrans pour les enfants aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas offrir à l'enfant la possibilité d'une connexion à sa hauteur ? C'est ce qu'a imaginé, entre autres, Mailo, le webmail gratuit pour les jeunes. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Mieux gérer l'utilisation des écrans, c'est aussi apprendre à nos enfants comment s'en servir, ne pas tout interdire, mais leur montrer comment ça marche, les accompagner aussi dans leur utilisation. Bonjour Pascal Voya.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de MailObject qui propose Mailo Junior, un webmail gratuit sécurisé pour les enfants. MailObject est né en 2002, je crois, mais c'est finalement cette année, hein, en 2019, que vous avez décidé de lancer cette messagerie junior. Pour quelle raison ?
Non, pas tout à fait. En fait, ce qu'on a lancé cette année, c'est Mailo. Et Mailo, c'est une messagerie grand public avec également...
Avec Mailo Junior dedans.
Avec Mailo Junior dedans.
Oui, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
D'accord.
On est bien d'accord.
Mais disons qu'il y avait NetC Junior avant.
Oui, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de 2002. On est bien d'accord.
Voilà,
c'est là que tout démarre.
Il y a eu, voilà, il y a eu NetCourrier, NetC, Mailo. Et à l'intérieur de cette, ce service de messagerie, il y a Mailo Junior.
Donc Mailo Junior, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Pourquoi ce sujet-là,
alors,
plus particulièrement ?
Déjà, on est tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et on fait également les mêmes analyses. Simplement, aujourd'hui, l'Internet, on ne peut pas totalement s'en séparer et personne n'a envie. Et donc, l'idée, la question qu'on s'est posée, c'est comment on allait accompagner nos enfants dans l'Internet dans lequel ils vont vivre à partir de maintenant. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de notre messagerie grand public qui hésitaient à créer une adresse mail pour leur enfant, qui hésitaient à leur donner accès aux réseaux sociaux et donc qui les empêchaient de toute utilisation. Et ensuite, on s'aperçoit que lorsqu'ils arrivent au collège et que même les professeurs ont besoin d'échanger avec les élèves, ben là, il faut tout d'un coup ouvrir un compte. Et l'enfant, du jour au lendemain, il est lancé dans le grand monde, dans le grand bain et il ne connaît pas, et il ne sait pas se protéger.
Du coup, ce sont les parents qui ouvrent le compte pour les enfants chez vous, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait, oui. Donc en fait, c'est un service qui, plus que pour les enfants, est un service familial. D'un côté, on rassure les parents parce qu'ils encadrent l'utilisation Internet, e-mail de leur enfant, et on rassure l'enfant parce qu'il ne pourra pas être importuné par des spams, ou des messages indésirables, parce que pour qu'il communique avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une validation du parent. Et ensuite, on rajoute au carnet d'adresse de l'enfant ses parents. Et après, il y a une communication libre.
On a une utilisatrice là, c'est Linda Costa.
Oui, hein, ouais, ma fille, on lui a créé un mail parce qu'elle voulait correspondre avec ses petites amies un petit peu partout en France. Bon, elle a 5 contacts avec papa et moi.
Elle a 10 ans, c'est ça ?
Elle a 10 ans, oui. Et c'est très, très simple sur la tablette, c'est très, très facile, très intuitif. Ça lui plaît beaucoup.
Voilà, bah, voilà, merci.
Et nous, ça nous rassure, c'est vrai.
Ça rassure
à chaque fois les contacts.
Vous fonctionnez par tranche d'âge. Hein.
Alors, on a deux interfaces. Ça commence, on a dit 6, 9, 10, 14, mais après, ça dépend bien entendu des enfants.
Ça veut dire qu'il y a un côté un peu plus ludo-éducatif pour les
6, 9
ans ?
Au début, disons que pour envoyer un email, on le fait par étapes. D'abord, il choisit le destinataire, après, il remplit son texte. On lui permet ensuite, sur une autre page, de rajouter des photos. Bon, donc, en fait, on l'aide un petit peu. Et puis, quand il lit ses messages, on les présente un par un. C'est plus simple, 6, 9 ans. En réalité, on dit 6, 9, mais assez rapidement, le parent change la configuration pour que l'enfant utilise l'interface 10, 14, qui ressemble plus à l'interface adulte, avec simplement un graphisme un peu plus sympathique, un peu plus adapté aux enfants.
Vous dites aujourd'hui, sur les 700 000, hein, c'est ça, 700 000 utilisateurs, il y a 20 000 enfants ?
Il y a 20 000 enfants environ, oui.
C'est beaucoup.
20 000 enfants sécurisés. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire qu'il y a 20 000 enfants avant le collège. Parce que dès que... En fait, l'idée de Mailo Junior, c'est pas de donner une adresse mail petitlulu.fr. Parce que cette adresse mail, bien entendu, ils auraient bien aimé l'utiliser comme ça avec les grands-parents. Et puis, au bout de quelques années, lorsqu'ils deviendraient adultes, ils voudraient une vraie adresse mail. Et dans ce cas-là, ils vont chez Gmail. Donc non, en fait, c'est une vraie adresse mail dès le début qu'ils vont conserver plus tard et qui va évoluer. Le parent, il lui donne une 6-9 au départ. Il lui donne interface un peu plus adulte, un peu plus grande, pardon, après. Et puis, dès qu'il y a besoin, dès qu'il y a trop de contacts, dès que le parent
ça devient
a l'impression...
une adresse, voilà, comme pour les adultes.
Le parent peut enlever la sécurité et l'enfant utilise normalement la messagerie. Et donc, les 20 000, c'est uniquement ceux qui sont sous contrôle des parents.
Eric ?
Bon, nous, on se connaît super bien, donc je vais tricher. La nouvelle version de NetC, puisque NetCourrier, c'était avant, c'était déjà des centaines de milliers d'utilisateurs, hein, des dizaines de milliers d'enfants. Maintenant, c'est Mailo, ça marche vraiment très bien. Et j'ai un petit coup de gueule rapide. Dans les écoles...
Ça m'étonnait aussi.
Eh ben oui, mais dans les écoles...
Ça faisait longtemps.
Oui, oui. Dans les écoles, certains pensent qu'il faut ouvrir un compte Gmail pour donner ça aux enfants obligatoirement. Donc, traquer dès le début avec tout un tas de choses. Alors, je sais qu'il y a Google App for Education, mais ils se sont fait condamner aux États-Unis, ils se sont fait attraper pour YouTube et compagnie. Donc, on va laisser
donc
tomber
les histoires. Donc, on peut sécuriser dans les écoles, c'est ça
pourquoi
qu'il faut dire.
Pourquoi pas Mélo? Pourquoi pas Mélo? Maintenant, ça marche très bien, il est super joli. Et Mélo Junior, il n'y a personne qui a la même. Donc, résultat, on peut donner aux profs et aux enfants. Et en tout cas, nous, on va pousser ça et Quant Junior.
Mais c'est moins connu, c'est parce que c'est moins connu.
Mais non, mais
c'est facile,
trop facile, mais c'est trop facile. 700 000 personnes, ça fait déjà des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que moins connu, évidemment, Gmail, c'est plus gros. Ben là, Mélo, ça marche très bien. Voilà.
Ben voilà, le coup de gueule est poussé et peut-être que le message est passé du côté du ministère de l'Éducation nationale de Jean-Michel Blanquer. Elisabeth, je voudrais qu'on regarde une autre solution parce que toutes sont bonnes à prendre pour éduquer nos jeunes aux bonnes pratiques du numérique.
Oui, il y a une association qui s'appelle e-enfance, hein, e-enfance. C'est une association de lutte contre le cyberharcèlement parce qu'il faut aussi penser au cyberharcèlement quand on laisse nos jeunes seuls devant les écrans. C'est une association donc, qui propose aux jeunes, aux parents et aux professeurs des formations sur les bons usages d'Internet. Elle a mis en place un numéro de téléphone, je vais vous le donner, le 0800 200 000, 0800 200 000, qui est gratuit, confidentiel, et ça s'appelle Net Écoute. Hein. Ils ont mis en place une assistance psychologique dans le cadre de cyberharcèlement, de piratage de comptes, des contacts indésirables. Et c'est d'ailleurs un programme soutenu par la Commission européenne et par le ministère de l'Éducation nationale.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1 pour nous aider à gérer cette utilisation.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.